Bendiciones de México.
Il y a l'église qui vous salue, qui vous aime. Il y a des gens qui nous regardent à partir de l'internet cette semaine. Donc il y a le pasteur assistant, sa femme, et ainsi que ma famille qui sont avec nous cette semaine dans cette convention. Si vous voulez recevoir notre lettre de nouvelles, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le site internet et je peux vous envoyer plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je n'ai que 10 minutes. Et puis l'autre pasteur derrière moi n'a pas voulu me vendre ces minutes. Donc je vais rentrer directement dans la parole de Dieu en 2 Rois 6 et ensuite je retournerai voir ce pasteur. 2 Rois 6. Les fils des prophètes ont dit à Élie, on n'a pas de place pour nous. Donc on te prie de nous laisser aller dans le Jourdain et on va faire un endroit afin de pouvoir, en fait, l'Institut biblique déménage pour aller sur le Jourdain. Et il a répondu, c'est bien, allez-y. Et il fait, est-ce que tu vas venir avec tes serviteurs? Et il a dit, oui, je viendrai pour superviser la construction de ce nouvel institut biblique. Il est parti avec eux. Et lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, ils ont commencé à découper du bois. Donc vous avez l'image, l'œuvre grandit, ils construisent un nouvel institut biblique, ils croient à la bénédiction par association et ils amènent Élie. Ils amènent Élie au cas où l'homme de Dieu, au cas où il se passerait quelque chose. Et tout d'un coup, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Il a crié. Oh, hélas, maître, j'avais emprunté cette hache. Ça vous est déjà arrivé d'emprunter quelque chose que vous cassez? Ou, je sais pas, emprunter de l'argent et vous n'arrivez pas à le rendre? Vraiment, on se sent très très mal. Donc, il y a plusieurs choses que cet homme aurait pu faire dans la situation. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Les choses grandissent. Mais la hache est tombée dans l'eau par accident. Il aurait très bien pu faire plusieurs choses à ce moment-là. Parce que maintenant, il allait avoir des problèmes à pouvoir faire l'œuvre que Dieu lui a demandé parce qu'il avait perdu son tranchant, il a perdu sa hache. Il aurait pu abandonner. Ça aurait été plus facile. Lorsque les choses sont difficiles, oh, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas abattre cet arbre. Je ne peux pas construire le nouveau dortoir pour l'œuvre qui grandit. Ce que je vais faire, j'abandonne. Je pense que Dieu a autre chose pour moi. Et je vais peut-être partir en Floride. Rien contre toi, hein, pasteur Moses. C'est sûr, je vous aime, pasteur Dan et pasteur Moses, là-bas. Non, mais en fait, je vais abandonner l'œuvre de Dieu. Je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire dans ma vie. Il aurait très bien pu faire ça. Il aurait pu faire autre chose encore. Il aurait pu prendre ce qui restait et en faisant semblant de faire quelque chose. Et faire plein de bruit avec son bâton. Oh là, je suis en train de casser quelque chose là. Aïe. Voilà, il est en train d'abattre avec son... Il peut faire semblant. Et quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais l'œuvre de Dieu. Tu vois, j'abats des arbres. Oui, mais t'as pas de fer à ta hache. Tu vas pas pouvoir avancer beaucoup. Mais je travaille, je fais ce que Dieu m'a demandé. J'y mets toute mon âme, tous mes efforts, toute ma force. Il aurait pu avoir des motivations différentes. Il aurait pu être très sincère en faisant l'œuvre de Dieu, vraiment. Mais il n'a pas de fer, il n'a pas de puissance, il n'a pas de coupant. Il le fait dans sa force naturelle, dans sa puissance, du mieux possible, en fonction des circonstances qu'il a. Parce que simplement, il n'a pas de moyen d'aller récupérer le fer, il ne savait pas nager dans l'eau. Il fait, mais tout le monde travaille. Alors moi aussi, il faut que je fasse semblant, je veux pas être un paresseux. Qu'un signe advienne. Et ça nous parle à chacun, ça me parle de moi, peut-être que ça parle de quelqu'un d'autre dans cette salle, dans la situation, peut-être dans le mariage, lorsqu'on fait tout ce qu'on peut, mais on n'avance pas, parce qu'en fait notre hache n'a pas de tranchant, peut-être dans le ministère, peut-être dans le travail ou avec nos enfants. On travaille dur, on transpire, on essaye. On peut être peut-être un peu frustré, mais on le montre pas parce qu'en fait, on est chrétien, on n'est pas censé montrer la frustration, n'est-ce pas? Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de paix. Il aurait très bien pu prendre ces options. Et je pense que beaucoup d'entre nous dans le monde chrétien, on voit beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur hache, qui ont perdu leur tranchant, et qui en fait travaillent avec juste le manche. Ils n'arrivent pas à aller très loin. Il n'y a pas de joie intérieure, pas de paix intérieure et pas de victoire. Mais ils y vont. Ils y vont, ils travaillent. Et ils vous disent, on va y arriver, on est le peuple de Dieu. Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Tout va bien. J'ai le manche de ma hache. La troisième option, qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? Il a crié. Ah, mon Seigneur, cette hache était empruntée. Il est allé dire, au secours, je n'y arrive pas, au secours, je n'y arrive pas, je suis fatigué, il n'y a pas de joie dans ma vie, il n'y a pas de paix. Je suis dans la confusion à propos de ce qui se passe autour de moi. Et il fait appel à l'âme de Dieu, à l'homme de Dieu. C'est pareil avec Jésus. Il y a un homme dont le fils était démonisé. Il l'a amené à des docteurs. Il l'a amené aux disciples et personne ne pouvait exorciser l'enfant. Et Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, si tu peux faire sortir le démon de mon fils. Et Jésus a dit, non, pas si je peux, bien sûr que je peux, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Car à celui qui croit, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et cet homme a répondu, vous savez ce qu'il a répondu, je crois, Seigneur, mais aide-moi, viens en aide à mon incrédulité. Et qui est celui qui vient en aide à notre incrédulité? Et pasteur Chibeli en a parlé hier soir et ce matin. Qui est celui qui vient en aide à notre incrédulité? C'est le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit vient? Au verset 6, l'homme de Dieu a dit, où est-ce qu'il est tombé? Où est-ce qu'il s'est tombé? Il ne parlait pas bien l'anglais, cet homme de Dieu. Mais c'était un homme de Dieu. L'ouvrier, l'étudiant de l'institut biblique lui a montré l'endroit. Je l'ai perdu là. Il n'était pas généraliste à propos de sa situation. Il a dit, je l'ai perdu là, à cet endroit même. Et quelquefois, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut dire, j'ai perdu cette chose là, à cet endroit précisément. peut-être sur une barrière, dans le pardon, une offense, peut-être un peu de découragement avec Dieu, peut-être un manque de foi, peut-être un manque de discipline. Peut-être que la familiarité peut intervient, mais le Saint-Esprit va nous montrer où on perd les choses. Ensuite, il a dit qu'il lui a montré l'endroit. C'est douloureux de dire, eh ben en fait, voilà, c'est là où j'ai fait une bêtise, c'est là où je l'ai perdu. C'est là, c'est cet endroit-là. C'est là où j'ai été offensé, par exemple. Je n'avais pas la foi pour ça. Ah, qu'est-ce qu'a fait l'homme de Dieu? Alors, il y découpa un morceau de bois, un bout de bois. Le voilà. Merci. Et il le jeta à la même place et fit surnager le fer. C'est quelque chose qui arrive de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque le Saint-Esprit, la guérison et la restauration interviennent par la croix, c'est là où Dieu nous rencontre à la croix. Il n'y a aucun autre endroit sur cette terre. C'est là où le ciel touche la terre. C'est là où il y a puissance de Dieu touche la faiblesse de l'homme. Là où la grâce nous rencontre. La puissance de Dieu intervient juste là, à ce point-là, la croix. En étant honnête avec Dieu, et que ses pensées, c'est nos pensées, et le Saint-Esprit arrive en disant, « Je veux te montrer ». En Jean 14, 20, il nous montre les choses de Dieu. Il nous montre les choses de Dieu. Nous sommes humbles devant Dieu. En Jean 4, 6, on oublie la partie B. Dieu nous donne une grande grâce à celui qui est brisé, qui est humble. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai pas confiance. Je ne me fais plus confiance. Seigneur, c'est là où j'ai perdu ça. Et le Saint-Esprit vient, la grâce et la miséricorde viennent, la croix vient. Et le Saint-Esprit nous montre les pensées de Dieu. Si je suis élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Élevez la croix. En élevant la croix, vous trouverez la puissance, la résurrection. À la croix, mes pensées, les pensées de Dieu viendront dans ta pensée humaine. Et là, la pensée surnaturelle de Dieu en Ésaïe 55. Abandonnez vos pensées pécheurs, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et ça arrive à la croix, dans la puissance du Saint-Esprit. La restauration et la victoire et la paix nous sont acquises là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était Sue Silva qui a chanté pour nous. J'ai une histoire où je pourrais dire, mais je vais parler de Pasteur Machuk. Je ne ferai pas cette blague à propos d'un plat de saucisses et d'avoir fait des cauchemars ensuite. Pasteur Machuk de Pologne. Moi, si tu veux, je peux te raconter l'histoire. Non. Bonjour. Dzień dobry. Oh. Parler polonais. C'est un grand privilège pour moi d'être ici. Il y a d'autres personnes de Pologne, d'autres pasteurs qui sont venus. Si vous êtes pasteur polonais, pasteur Robert de Krakow, pasteur Tomik from Wrocław et pasteur Mariusz de Gdańsk. Ces hommes sont incroyables. Ce sont des hommes de Dieu incroyables. Avant de commencer, il faut que je dise une chose. Les gens du booth polonais m'ont ordonné de le faire, sinon j'ai plus le droit de retourner à ce stand. Si vous sentez cette odeur de cuisine délicieuse. Il faut que vous arrêtiez pour goûter. Essayez un peu de prendre cette nourriture polonaise si délicieuse, d'accord? Merci. Lorsque je pense au thème de cette conférence sur le fait de chérir la croix, ça me brise le cœur. Lorsqu'on pense à ce qui s'est passé sur cette vieille croix, l'amour exprimé en action, la démonstration de l'amour. Je pense que ces clous qui ont percé les pieds et les mains de notre Sauveur n'étaient pas nécessaires. Parce que son amour suffisait à le faire rester sur la croix. Parce qu'il nous a tant aimés. C'était un sacrifice parfait pour nous, afin que nous puissions vivre et que nous ayons la vie en abondance, pas une vie normale. Il y a des gens qui regardent à la croix et qui disent « Oh, Jésus a été vaincu à la croix. » Ou alors se dire « C'est un gaspillage. » Il aurait pu ressusciter plein de gens. Il aurait pu guérir encore plus de malades. Non. Ce qui s'est passé à la croix était tellement incroyable. Et ce que j'aime, c'est ce que Paul a, dans Jean, ce qu'il a dit dans son évangile, en Jean 19, 41, la première verset, 19, 41. À l'endroit où il a été crucifié, il y avait un jardin. On voit une vie qui est issue de la mort. Bien sûr, dans les jardins, on voit plein de fleurs. Mais ce n'est pas seulement la mort. Mais il y a une vie dans ce jardin. Une vie qui vient aussi de la croix. Afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre. Et lorsqu'on pense à la croix, il y a une pancarte sur la croix. Parce qu'il y a eu un grand prix à payer afin que nous puissions être ici et avoir cette vie-là que nous vivons en ce moment. Le prix a été très élevé, le prix de sa propre vie pour nous sauver. Pasteur Schaller a dit avoir une vie qui est complètement centrée sur la croix. Il faut que nous aussi nous payions un prix. De payer ce prix-là. Vous savez, j'aimais bien jouer au tennis, donc je ne suis pas excellent à ce jeu. Et la dernière fois, je regardais Wimbledon en Angleterre. J'ai vu que le stade est tellement grand et que les gens qui sont tout en haut, au dernier rang, en fait, ils peuvent à peine voir ce qui se passe sur le court. De voir si la balle est encore dans le court ou non. Je pense que c'est encore mieux d'être à la télé dans ces cas-là, plutôt que d'être au dernier rang à Wimbledon. Mais ces places sont les moins chères. Si tu veux être au centre du match, il faut que tu achètes très cher des places au premier rang. C'est un peu la même chose avec à notre vie. Si on veut être au centre de la croix, il y a un prix à payer. Quelquefois, on va perdre notre temps, notre vie à nous-mêmes. Et quelquefois même, nous allons perdre nos amis. Mais c'est le prix qu'il y a à payer. Si on veut être comme Philippe et rentrer dans le train de l'Évangile, il faut qu'on paye un prix. Lorsque je pense à ces pasteurs qui nous ont enseigné, comme pasteur Chaleur, pasteur Shibeli, pasteur Stevens, ces hommes payent un prix, ont payé un prix. Et je remercie Dieu pour ces hommes qui ont accepté de payer ce prix-là. Parce que si ce n'était pas pour le sacrifice qu'ils font d'eux-mêmes, je ne sais pas où je serais. J'ai parlé à quelqu'un en Pologne et je lui ai dit, merci pour ce ministère, pour pasteur Stevens, pour pasteur Chaleur. Simplement parce qu'ils ont donné leur vie pour nous. Et à cause de ça, moi je peux être là, debout devant toi. Je peux te parler de cet amour extraordinaire et de cette vie extraordinaire que Christ nous donne. Simplement parce que quelqu'un a accepté de payer le prix. Il y a un prix à payer pour vivre une vie crucifiée. Mais peu importe, même si le prix est très élevé, peu importe. Simplement parce qu'à l'endroit où on a crucifié Jésus, il y avait un jardin. Il y avait un jardin. Et nous, nous pouvons vivre de la vie qui coule de la croix. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était un chant magnifique, merci. Donc, j'ai entendu des chants. Donc, nous avons pasteur Brian de Bangalore. Est-ce qu'on peut accueillir pasteur Brian Coelho? Coelho qui vient du Bangalore. En Inde.
Well, what a morning, huh?
C'est vraiment une matinée extraordinaire.
Times.
Des temps bénis.
Okay, greetings from the city of Bangalore.
Bien sûr, Bangalore vous salue. Je suis désolée que vous alliez au stand polonais. Donc c'est super d'être là dans cette conférence. Donc vraiment toute l'église de Bangalore m'a demandé de vous saluer et je suis sûre qu'ils sont en train de regarder sur internet. Père, nous te remercions pour cette matinée. Merci parce que tu as ordonné nos pas de façon à ce que nous te rencontrions. Merci pour l'homme que tu as mis devant nous en Hébreux 13, 17. On te remercie pour les vies des jeunes qui nous précèdent et bénis cette portion en ton nom. Amen. En Éphésiens 1, 19, l'apôtre Paul prie à l'église d'Éphèse et une des choses qu'il leur dit, c'est afin que nous comprenions la puissance extraordinaire. Le livre des Éphésiens est unique parce qu'il nous parle sur la façon dont Dieu a pris le croyant, le pécheur, par l'évangile de Jésus-Christ et il a placé son serviteur à la croix en Christ et ensemble avec Christ au travers de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son ascension. Nous sommes avec lui assis dans les lieux célestes. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, il faut que nous connaissions la grande puissance envers nous, envers ceux qui croyons. Ça explique le potentiel qui existe dans le croyant simplement parce que nous sommes unis à Christ. Ayant satisfait sa justice parfaite et son amour en déversant sa colère sur son Fils, maintenant Dieu est complètement capable de satisfaire son amour au maximum en sauvant tous ceux qui voudront s'approcher de lui. Ça nous met dans un endroit tout à fait particulier où on peut écouter et recevoir l'Évangile. Et Dieu ne nous a pas simplement accordé le salut. Ce serait tragique de se dire, oh, ok, je suis venu à Dieu, j'ai cru, et maintenant, plus rien. J'aurais juste toutes mes questions n'auraient aucune réponse. Le mot puissance, il y a beaucoup de mots pour le mot puissance, je ne vais pas parler de ça ce matin. Mais il est important pour nous de comprendre que la puissance de Dieu se dirige en nous. Nous sommes dans un endroit avantageux où Dieu va nous rencontrer. Nous sommes cachés en Christ. Nous ne sommes pas dans un endroit où nous sommes désavantagés vis-à-vis de Dieu. Non. La grâce nous a apporté dans la faveur divine qui n'attend rien de nous en retour. Donc, trois fois dans cette épître, l'apôtre Paul parle de puissance. Et ensuite, en Éphésiens 3 et en Éphésiens 1:19, je peux me reposer dans l'œuvre de Dieu pour moi. Je peux me reposer dans l'expiation de Christ. Et ça me donne une paix extraordinaire en tant que croyant. Puisque nous sommes dans une position en Christ avec Dieu, en Colossiens 1:30, lorsque Jésus est venu, dans la chambre haute, Christ a dit, n'ayez pas peur. La paix me donne la possibilité d'entrer dans l'adoration en tant que croyant. Dieu a dit, parce que tu es assis dans les lieux célestes, je vais te demander. En Jean 16:7, c'est à votre avantage que je m'en aille. Seigneur, ne t'en va pas. Reste avec nous. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer celui qui va vous réconforter, le Saint-Esprit. C'est une phrase extrêmement puissante, une parole de consolation puissante, notamment aux disciples et aux apôtres. L'apôtre Paul, dans la deuxième partie d'Éphésiens 3:18, il dit à l'Église, si je comprends ce verset, si j'y crois, tout ce qui s'est déjà passé par la foi, je suis sauvé. Mais si je crois, il y a une possibilité. Le prix à payer, il nous dit, afin que vous soyez fortifiés avec la puissance au travers de son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Ce qui veut dire que vous et moi, nous sommes dans un endroit avantageux où nous avons l'œuvre accomplie de Christ et nous sommes dans cet endroit sur cette terre où nous sommes quotidiennement enrichis. Ah, et enrichi et fortifié pour marcher selon l'obéissance. Nous sommes fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Alors le croyant n'est pas quelqu'un qui est impotent. C'est quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu. Donc, Dieu ne va pas vous appeler à quelque chose s'il ne vous a pas déjà qualifié et permis. Et s'il n'a pas donné la provision pour ça. Donc tous les jours, nous devons besoin d'être renouvelés dans notre esprit et d'être remplis du Saint-Esprit. En Éphésiens 5:18, nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur. Être fortifiés de la force de Christ. Et ça nous donne le potentiel de marcher ensemble, d'avancer ensemble. Nous sommes des ouvriers dans la vigne. Nous sommes des collaborateurs avec lui. Nous sommes co-ouvrions. Lorsqu'on voit que Jésus était dans la chambre haute, il fait « Vous allez faire de plus grandes choses que moi et vous aurez un amour accru pour les frères. » Et ce ministère est vraiment une image de ça. Nous avons une vision mondiale avec simplement la connaissance de la valeur d'une seule âme. Donc les frères indiens sont venus. Et en fait, les pasteurs indiens sont ébahis de voir qu'il n'y a aucune chair qui transparaît ici. Dans les temps de conférence, et on se demande toujours comment ça va commencer et finir. Et là, en fait, le sentiment, c'est comment est-ce qu'on peut se dire, comment est-ce qu'on peut s'aimer encore plus. Et finalement, pour terminer, Dieu ne nous a pas simplement donné une position. Dieu, il nous a remplis par l'Esprit. Il nous a donné les capacités. Et c'est important de comprendre ça. Dans notre marche avec Dieu, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Mais peu importe. L'apôtre Paul dit, soyez forts en Dieu. Donc l'adoration, la marche, et il y a aussi la bataille spirituelle. Dieu ne nous laisse pas d'être transpercé par le diable et ses démons. L'un des facteurs qui trouble les gens lorsqu'ils sont sauvés, lorsqu'ils se convertissent à l'Évangile, après avoir été sauvés, ils ne comprennent pas comment affronter la bataille spirituelle. Il y a une mauvaise conception. Et beaucoup, il y a en Inde, il y a après être sauvés, les gens sont tentés de retourner à leurs anciennes religions, simplement parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne connaissent pas la pleine doctrine et le plein conseil de la parole de Dieu. Et ils retournent à leurs anciennes formes d'adoration. Mais si je suis sauvé, je suis aussi complètement délivré. Voilà pourquoi en Éphésiens 6:10, Paul dit « Soyez forts en Christ ». Le croyant, la position, la puissance, il a aussi la protection. Et c'est tellement un privilège de savoir que dans les ténèbres de ce monde dans lequel nous vivons, il y a la lumière de l'Évangile qui va nous protéger. Nous sommes dans une position, on est indétrônable, nous avons la puissance de Dieu et nous avons une protection dans laquelle nous sommes parfaits. 2 Rois 18:4, le serpent des reins qui a été utilisé pour délivrer les Israélites était adoré. Et Ézéchias, il a compris que ce n'était pas juste un symbole, mais que c'était là la puissance de la vie. Donc en 2 Rois 18:4, Ézéchias a brûlé le serpent d'airain parce que les Israélites commençaient à adorer. C'est comme la croix. Il ne faut pas croire que c'est un gris-gris ou une amulette. Non. Si on met une croix, c'est simplement pour signifier au monde être un témoin de cette croix, mais pas parce que c'est quelque chose de magique qui nous protège. Amen. Juste pour terminer, on va revoir un peu tous les points qu'on a, toutes les portions. Mais on a Pasteur Duke. J'ai entendu sa voix. Pasteur Duke est là avec nous. Est-ce que vous avez remarqué? Quelquefois il dit preach it, c'est-à-dire vas-y prêche. Ou amen. Qu'est-ce que tu dis d'autre?
Hallelujah.
J'aime ça. Et il y avait Kyle, mon fils Kyle, qui a 14 ans, qui était à côté de toi. Est-ce que tu peux m'affirmer ça? Kyle, je te donne $20 si tu te mets à hurler « Preach it !» Vas-y, prêche. C'est vrai ou non? C'est vrai, tu l'as vraiment fait. Tu as vraiment dit ça à mon fils. Ça vient d'où, ça?
I wish you had said that, because it puts them right there. To, you know, do I have the courage to?
Est-ce que j'ai le courage de crier? Preach it.
Is he here right now?
Est-ce que Kyle est ici dans la salle?
Preach it.
Don't preach
you feel it. Like in preaching that there is.
Dans la prédication, il y a quelque chose qui est approprié. Qui est juste dans le temps, quelque chose de parfait. Oui, il faut que la salle réponde oui. On va essayer maintenant. On y va. Pasteur Bruce Moon a dit qu'Élie a dit où est tombé l'âche, le fer. Et l'étudiant de l'Institut biblique a dit juste là. Là. Preach it. Il y a quelqu'un qui a crié. C'est parfait. Tu, ça y est, c'est bon. Et il a répondu que le Saint-Esprit va vous montrer là où vous avez perdu votre coupon, votre... Et il a dit, ça peut être dans votre mariage. Tu n'as pas dit ça? Si. Ouh, alors je vois que cet auditorium devient fou. Où est-ce que je peux perdre aussi mon coupon? Mon coupon. En A-N-T. Dans ma famille. Aussi dans le manque de pardon. On peut perdre ça aussi. Et c'est de ça dont je parle, frère. C'est ce dont je parle. Et est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen? Je vous entendais pas. Où est-ce qu'il est tombé?
Right there.
Là.
Where is that place?
Où est cet endroit?
Unforgiveness,
le manque de pardon, l'incrédulité. Quand on ne prie pas.
Oh, yeah.
Oh oui! Il prend le manche.
Right there.
Ici.
And, okay, Pat. Did you want to pick up on that,
est-ce que tu veux reprendre là-dessus?
Okay, number two,
deuxièmement, Pasteur Machuk. C'était excellent, n'est-ce pas ce qu'il a partagé?
Wow. The part that I liked was the
ce que j'ai aimé, lorsqu'il a utilisé, c'est lorsqu'il m'a cité. En exemple. Oh, je vais écouter le CD encore. Non, tu plaisantes. Quand il parle de Wimbledon, je trouve que c'était une bonne. Qu'est-ce que le peuple de pense? Vous savez, vous pouvez être très très loin, vous voulez être juste au centre, au cœur. Est-ce qu'on doit payer un prix? Oui. Oui. Est-ce qu'on paye un prix? Oui. Oh oui. Quel est le prix?
Kielbasa.
J'ai pas compris, je suis désolée, je peux pas traduire la blague. Quelqu'un a dit kielbasa, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'on a un problème de communication là, les pasteurs. C'était excellent. C'était vraiment un bon moment. Et Pasteur Brian, est-ce que vous connaissez Susie qui a chanté? Est-ce que vous la connaissez? Vous savez qu'avec Pastor Brian, ils sont frères et sœurs. C'est une très belle famille. Ils sont dans la même église. Moi, ma famille, on est tous les plus éloignés les uns des autres. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on en a terminé? On va terminer. Non. Le message ce soir. Attendez. Le prix de Kabasa, ce sera le message de ce soir.
Ok.
On va terminer en disant de façon pratique, le fait de prendre la croix, et c'est certainement l'élément le plus important pour notre vie. C'est extraordinaire. Et beaucoup d'entre vous, vraiment, vraiment, dans vos cœurs, vous croyez, vous avez embrassé et vous marchez à la croix. Juste cette pensée, lorsque les gens prennent leur croix, vous pouvez voir les résultats de façon complètement publique. Et mais il y a beaucoup de sœurs et de frères, lorsqu'ils prennent leur croix, ils n'ont pas le privilège de voir dans cette vie des résultats visibles ou des expressions visibles de victoire. Ils l'ont à l'intérieur d'eux. Ils meurent dans la honte. Ils meurent dans le rejet. Ils meurent dans l'ostracisme. Ils sont en dehors du camp. Beaucoup d'entre nous, nous avons pu voir que si nous vivons par la croix, nous avons également à l'intérieur de nous, nous avons la croix à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des frères et des sœurs dont on peut être fier en Dieu. C'est magnifique. Et on se souvient aussi que cela n'est pas notre motivation. Notre motivation n'a pas d'avoir du succès, mais plutôt de trouver la manne cachée, de trouver la réalité de cette croix. Et même si cette réalité est remplie de trous, de troubles, en Proverbe 4, mais je vais le suivre pour le connaître. Parce que la croix, c'est pas simplement que 3 jours après, il est ressuscité, mais aussi il connaissait le Père. Et la croix, c'est pour nous permettre de connaître Dieu. Les résultats restent entre ses mains. Peu importe. Si tu veux me suivre, tu dois mourir. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Si nous le suivons, nous allons mourir. Et on est aussi surpris d'être au premier rang à Wimbledon. Et je pense qu'un réveil spirituel se passe comme ça. Lorsque tu sais que tu es là, là où les choses se passent, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes au bon endroit, c'est Dieu qui est là et qui nous utilise et qui nous parle. Et c'est extraordinaire. C'est un privilège. Amen. Père, nous te remercions aujourd'hui pour tout ce que nous avons entendu. Les thèmes, les vies des gens, et le ministère que tu nous as donné à chacun d'entre nous. En Pologne, Pasteur Mocek, qui s'est tenu de façon tellement courageuse à la croix dans ce pays, avec beaucoup d'autres, dans les temps de crise. Et on le respecte. Pasteur Brian, Pasteur Bruce, tous les pasteurs qui sont ici. Merci pour la croix, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.